Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Ami du jour, bonjour. Ami du soir, bonsoir.
Et de Mordren.
Salut à tous. Bon, moi j'ai pas de gimmick, hein, désolé.
Mais ta seule présence nous suffit, Mordren.
J'ai cru que t'allais dire ta seule présence est un gimmick de toute façon.
Mais non, Mordren, tu sais très bien qu'on te respecte trop pour parler de toi comme ça.
Bon, je vais m'en aller, en fait.
Au sommet de l'actualité cette semaine, on vous parlera de The Game. On enchaînera ensuite sur une traduction française. Nous parlerons du Nintendo Direct, voilà. On évoquera encore une fois Assassin's Creed Odyssey. On parlera de l'instant nippon, hein. L'instant nippon, ces moments que seuls les Japonais peuvent nous offrir, n'est-ce pas? Et enfin, on terminera par un sujet sur une intelligence artificielle qui s'est mesurée à des joueurs pros sur StarCraft 2. Allez, c'est parti, on va commencer, Mordren, par une triste nouvelle.
Ouais, c'est une triste nouvelle, bon, à laquelle on finit malheureusement par s'habituer, hein, dans la presse jeux vidéo. C'est un magazine qui a fermé ses portes avec son dernier numéro, qui était le numéro 28. C'est The Game, donc un magazine qui avait été créé en juillet 2014, donc qui avait fêté ses 4 ans il y a pas si longtemps que ça, et qui, par problématique économique, va s'arrêter. Le dernier numéro va être envoyé le 1er février à tous les abonnés, bien sûr, mais il n'ira pas en kiosque. Donc vous pourrez pas l'acheter si vous n'êtes pas abonné. En revanche, il est disponible en PDF et vous pourrez lire cet édito du rédacteur en chef qui se montre pas si pessimiste que ça quant à l'avenir du magazine, sous une forme ou sous une autre. Donc a priori ça sera pas du papier évidemment, mais voilà, on sait pas exactement sous quelle forme ça pourrait renaître, mais en tout cas c'est une possibilité.
Bon, alors, je vais faire un aveu quand même, avant que tu mettes cette news, Mordren, je ne connaissais pas ce magazine, mais alors ouais. Pas du tout. Bon, il faut avouer aussi que je suis pas un énorme consommateur de presse-papier, j'ai pas la place, enfin voilà quoi. C'est un format, malheureusement, qui ne correspond pas à mon style de vie, on va dire.
C'est compliqué,
mais,
ouais.
Mais dans les explications qu'il a données, il dit quand même que c'est très difficile de faire tenir un magazine papier pas trop cher, sans publicité, tout simplement.
C'est ça.
Et moi, j'y vois une conséquence des problématiques qu'on a déjà évoquées ici par rapport à Prestalis, etc. Du pourcentage qui est prélevé sur la presse avec des magazines qui ont un équilibre économique très fragile et qui se font balayer dès qu'on se retrouve dans ce genre de situation, quoi. Donc, malheureusement, encore une victime des problématiques qu'il y a en ce moment dans la presse, quoi.
ATH, t'avais quelque chose à dire ?
Oui, c'était juste pour dire quand même, il faut saluer le courage de Vincent Homs, qui est le rédacteur en chef du magazine, parce que c'est pas quelqu'un de pessimiste du tout. Je vois quelqu'un comme ça qui sait que c'est difficile de travailler dans le jeu vidéo, surtout sur le domaine papier. Et il est quand même là à nous dire que, voilà, il espère revoir The Game revenir sous une autre forme, et voilà, je trouve que c'est quand même une belle forme de courage.
Après, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire, parce que s'il y a bien un milieu qui me paraît encore plus galère que la presse papier, c'est la presse web.
Oh oui.
Donc voilà, je suis curieux de voir ce qu'ils ont prévu de faire. Bon, Mordren.
Oui.
Tu vas nous parler d'une traduction.
Oui, alors je sais pas si vous avez parlé du portage sur console de la trilogie Ace Attorney.
Pas du tout.
Bon, ça a
été
annoncé.
Il faut dire qu'on y a tellement joué que ça a été tellement porté sur différents supports que voilà.
Les trois premiers épisodes d'Ace Attorney qui étaient sortis donc sur 3DS vont se trouver un petit portage, donc à la fois sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et donc PC. Ça arrive pour le début d'année. On sait pas encore exactement quand. En tout cas, ça a été officialisé la semaine dernière. Ce qu'on ne savait pas, c'est quand est-ce qu'allait arriver la traduction française. Ça a été annoncé un petit peu plus tard que la traduction française arriverait après le lancement. Ce qui est un petit peu dommage, mais sachez-le, elle arrive en tout cas, on ne sait pas encore exactement sous quelles conditions.
Surtout qu'elle existait déjà. ATH.
Oui, c'est exactement ça ce que j'allais dire, c'est que en fait le jeu à la base était sorti sur Game Boy Advance, mais nous en Europe on l'a connu sous une édition Nintendo DS. Il y avait déjà une traduction française à l'époque. Aujourd'hui le jeu sort bien plus tard sur PS4, Xbox One et PC. Mais il n'aura pas de version française sous-titrée directement. Et j'imagine même pas comment on peut être aussi bête pour pouvoir sortir une version dans le commerce et avoir la traduction française qui existe déjà depuis pas mal d'années et la sortir plus tard en téléchargement. C'est un petit truc, c'est rien, parce qu'on dit ouais aujourd'hui tout le monde a internet, mais je trouve ça quand même un petit peu dommage. Ils auraient pu prévoir le coup à l'avance quand même, ça coûte rien quoi de le mettre à l'avance.
Ce qui est étonnant si tu veux, c'est que la première fois qu'il y a eu cette compilation, quand elle est sortie du coup sur 3DS, il n'y avait pas eu la localisation française. Bon. Cette fois, peut-être que Capcom s'est dit bon, ce serait bien peut-être de la mettre, mais ils s'en sont rendus compte peut-être trop tard. ils l'avaient pas prévu pour tout de suite. C'est un petit peu étonnant.
Voilà, c'est complètement débile. Encore, tu m'aurais dit qu'ils auraient dû faire un autre travail de traduction parce que sur la DS, à la base, c'était une version anglaise uniquement et une version japonaise. Mais non, là, la version française existait déjà et sur la 3DS, ils se sortent le jeu en Europe sans la version sous-titrée. Après, moi, ça me dérange pas parce que je comprends en général assez bien l'anglais, mais le design du jeu, c'est un design assez cartoon. Ça s'adresse quand même à un public assez jeune. C'est un petit peu dommage de sortir un jeu dans un pays sans avoir la localisation française, quoi.
En tout cas, il y a un truc dont je suis certain, contrairement à ce que pas mal de gens ont l'air de penser, vu la considération qu'a Capcom pour une version qui était déjà traduite, ça m'étonnerait très fortement qu'ils s'amusent à traduire pour le coup les épisodes 4, 5, 6.
C'est clair.
qui n'avaient jamais été traduits. Alors là, mais j'y crois pas. Mais alors, une seconde, quoi. Parce que, alors, on me dira, oui, mais peut-être que ça va marcher, etc. Non, mais sérieusement, les gens, la trad, elle est pas incluse de base dans le jeu. Enfin, voilà, je pense que, honnêtement, faut pas s'attendre à grand chose du côté de la trad des épisodes qui ne sont jamais sortis chez nous traduits, quoi. ATH.
Je voulais juste rebondir sur le fait que ça sort sur PC, Xbox One et PS4.
Et Switch.
Et oui, mais je parle de ces supports-là en particulier parce que je trouve que c'est pas des supports adaptés à ce type de jeu, en fait. Sur Switch, bah, c'est un support portable. Il y a pas de souci par rapport à ça, mais par rapport à la PS4, parce que de mémoire, si je me souviens bien, sur la version 3 DS, il y avait une énigme en plus qui était rajoutée à la fin, parce qu'en fait le jeu est découpé en plusieurs chapitres et il y avait un scénario supplémentaire qui a été rajouté à la fin du premier par exemple, et il fallait utiliser le joystick de la DS. Alors ça, je sais pas si ça va être intégré dans la compile ou si ça va être complètement effacé, parce que voilà, sur la PS4 on peut le faire avec le pavé tactile, mais sur la Xbox One je vois pas comment on pourrait faire, en fait.
Bon, après, je pense que ça aura quand même un petit succès sur PC parce qu'il y a pas mal d'amateurs de visual novel. D'ailleurs, c'est un truc qui me fait beaucoup rire en ce moment quand je regarde les Kickstarter. Quasi systématiquement, quand t'as un visual novel, ça marche pour une trad. Mais moi, ça m'a toujours paru curieux parce que c'est des jeux à texte.
Exactement.
Alors certes, j'aime pas mal les RPG, mais les RPG, il y a quand même pas mal de phases de gameplay, etc. Là, c'est du 100% texte et tu vas passer des heures et des heures à lire sur un moniteur de PC. Ouais, c'est quand même rude, quoi. Bon, messieurs, nous allons maintenant passer à la suite. Et Morren, bah écoute, tu vas attaquer le segment Nintendo. Hein. Ouais. Le fanboy est de sortie, n'est-ce pas? On n'en attendait pas moins. Donc dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier Nintendo Direct?
Ouais, c'était un Nintendo Direct dédié aux indépendants. D'ailleurs, ça s'appelle même pas Nintendo Direct, ça s'appelle Indie Highlights. Et c'est un segment où, pour le coup, Chucklefish, donc l'éditeur indépendant, a eu pas mal de place, puisqu'ils y ont présenté deux jeux. Wargroove, qui est donc cette inspiration d'Advance Wars qui est très claire dans un univers fantastique, qui sort, on le sait maintenant, le 1er février. Alors, ce n'est pas une exclusivité Switch, loin de là, hein, ça sort partout le 1er février, et ça a l'air vraiment très bien. Très honnêtement, c'est un des jeux que j'attends le plus cette année, donc...
Bah, c'est ce que j'allais demander, alors Mandren, est-ce que tu es un homme comblé?
Ouais, enfin, je serais comblé s'il est bien, ce jeu. Après, s'il est pas bien, non.
Bah écoute, vu le trailer, en tout cas, ça s'annonce bien.
Ouais, ça s'annonce plutôt très bien.
Je pense qu'on sera d'accord là-dessus.
Ouais, c'est clair.
En tout cas, t'as envie d'acheter.
Potentiellement le premier jeu que je vais acheter cette année, ouais. Également un jeu français qui s'appelle Unruly Heroes, qui est développé par d'anciens développeurs d'Ubisoft et qui avaient notamment travaillé sur les Rayman Legends et Origins. Et ça se voit, hein, ça se voit beaucoup parce que très clairement en termes de... Alors j'ai pas pu vérifier, mais ça ressemble vraiment à du UbiArt Framework.
En tout cas, la patte des décors surtout.
Ah ouais, voilà. Et c'est un jeu coop, plateforme, plutôt sympa, dans l'univers de... c'est la légende du roi singe. Et très honnêtement, ça a l'air hyper stylé. Et c'est déjà sorti. Encore une fois, c'est pas une exclusivité Switch, hein, donc c'est sorti partout. Je vous parlais de Chucklefish tout à l'heure. Il y a un deuxième jeu, du coup, de ce même éditeur qui a été, cette fois, annoncé sur Switch. Puisqu'on savait déjà qu'il allait sortir sur PC. Maintenant, on sait également qu'il sort sur Switch. C'est un jeu qui s'appelle Inmost. C'est un puzzle platformer en pixel art. qui est plutôt joli, ma foi, et qui est assez intéressant parce que l'objectif affiché de ce jeu, c'est de vous raconter une histoire où il y aura trois personnages différents. Un chevalier, un vieil homme qui fuit une créature qui se nourrit de la douleur, et une petite fille solitaire. Et ces trois personnages-là auront des parcours, on sait pas trop s'ils vont se connecter, mais en tout cas, on les jouera avec des mécaniques de jeu qui sont totalement différentes. Donc il y aura des puzzles, il y aura des phases de combat, et il y aura des phases de plateforme, évidemment. Ça a l'air vraiment très intéressant. Pour l'instant, on n'a pas d'autre date de sortie que 2019, et ça sortira donc sur PC et sur Switch. Donc je continue avec Double Kick Heroes, un jeu de rythme où à l'écran, il y a des gens dans une bagnole qui tirent sur des bêtes qui les coursent, et pour tirer, vous allez devoir taper en rythme avec la batterie sur des morceaux de métal. Il y a 30 morceaux de métal originaux qui sont sur la bande-son, plus des morceaux qui ont été licenciés, notamment de groupes comme Gojira. Ça a l'air complètement barré, ça a l'air vraiment rigolo, plutôt dur, hein, si tu regardes la bande rythmique, ça a l'air de très clairement balancer, et ça sortira du coup cet été, en premier sur Switch, donc une exclusivité temporaire, Nintendo s'y met également. Et enfin, Steam World Quest, donc le dernier né de cette gamme de jeux Steam World, qu'on a eu Steam World Heist, SteamWorld 1 et 2. Et ce jeu-là donc s'appelle SteamWorld Quest et c'est un Slay the Spire-like, très clairement, hein, ça se voit. C'est un jeu de cartes dans lequel vous allez du coup vous battre contre différentes bêtes à l'aide de votre deck de cartes. Je sais pas si ça va réinventer la roue, mais en tout cas, voilà, une nouvelle petite sortie qui va pouvoir nous intéresser. Alors pareil, on sait pas encore quand est-ce que ça sort, mais c'est pour 2019.
Alors, juste une précision par rapport au Double Kick Heroes, quand tu dis exclusivité, hein, c'est exclusivité console, parce que ça fait longtemps qu'il est sorti sur PC. Mmh. Il est sorti en avril 2018, hein, donc voilà.
Merci.
Je voulais rajouter un jeu à ta liste, je vous incite très fortement à y jouer, même s'ils n'ont pas encore annoncé de date, c'est CrossCode.
Ouais.
Alors, j'en ai pas encore parlé, parce que malheureusement, il a fallu que je commence avant de partir chez mes parents, et quand j'étais chez mes parents, je voulais pas jouer à RPG, parce que je suis là pour passer du temps avec des gens, et que quand tu joues à RPG, bah tu passes des heures à jouer.
Bonjour papa-maman, je vais sur le PC.
Voilà, c'est un peu ça, ouais. Du coup, j'y ai pas joué pendant les vacances, et malheureusement, vous connaissez bien ce phénomène, hein, tu commences un jeu, tu fais un break, et quand tu reviens, tu sais plus où t'en es dans l'histoire, et ça te... t'as du mal à redémarrer, en fait. Et si je redémarre pas, c'est pas parce que le jeu n'est pas bon, hein, c'est juste que j'ai du mal à me remettre dans les jeux comme ça, il faut que je me force. Mais par contre, je vous le dis tout de suite, pourquoi je vous recommande, parce que c'est un excellent jeu. C'est un espèce de Secret of Mana-like avec les autres persos contrôlés par l'IA, et c'est juste excellent. Donc dès qu'il sortira, allez-y, parce qu'en plus, ils avaient pas forcément prévu de le porter à la base. Mais finalement, apparemment, ils ont trouvé une boîte qui a l'air de s'y connaître pour faire un bon portage. Et vraiment, c'est très très bon, c'est d'excellente qualité. ATH.
T'avais beaucoup de mal à t'y remettre, parce qu'en plus ça, c'était un RPG, et un RPG, on sait très bien qu'il faut pas lâcher plus d'une semaine ou plus, sinon après c'est très compliqué niveau histoire, narration.
Bah après c'est quand même assez orienté action, donc je me disais que non, ça valait pas poser problème, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de dialogue, etc., donc faut se remettre, quoi.
Est-ce qu'il y a une composante Metroidvania ou pas? Parce que là, ça peut être encore, ça peut encore doubler
non,
la difficulté.
Du tout, pas du tout.
Ce que je voulais dire, c'était par rapport en fait à la petite liste qui nous a fait Mandrain sur Nintendo Switch qui a été présentée. Pour moi, franchement, dans toute cette liste, celui qui ressort le plus, même s'il est déjà sorti sur PC, c'est Double Kick Heroes, parce que là, ils mélangent vraiment le gameplay avec la bande sonore, mais en plus de ça, ils essayent d'incorporer des mécaniques de jeux musicaux à un rail shooting. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu souvent dans le jeu vidéo, et je trouve que c'est un des seuls qui se détache un peu le plus en termes de, au moins de gameplay, quoi.
Alors, personnellement, celui qui me sauce le plus là-dedans, c'est Wargroove, mais ça, c'est mon côté fan de Advance Wars. Et aussi, comment il s'appelle le jeu des développeurs d'Ubisoft?
Unruly Heroes.
Unruly Heroes, voilà. Enfin, c'est magnifique.
Ouais.
Encore une fois, tu vois, j'ai envie de saluer les efforts sur la direction artistique, quoi. Même si le jeu, je sais pas ce qu'il donne. Peut-être que c'est de la daube, hein, si ça se trouve, parce que c'est bien gentil de faire des beaux graphismes, mais si le jeu, il est pas intéressant, voilà. Surtout que le jeu a l'air quand même assez classique. Je note quand même le fait qu'il y a un aspect coop et ça m'intéresse. Mais la DA, déjà, ça donne envie, quoi.
Bah, au moins, c'est pas du pixel art, déjà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut se dire.
Non, mais au-delà du fait que c'est pas du pixel art, il y a une entité visuelle. Parce qu'il y a aussi des jeux sur mobile qui sortent, c'est pas du pixel art, mais ça donne pas envie non plus, hein. C'est, Par contre, Mordred, là, tu vas enchaîner sur une nouvelle qui va faire grincer des dents, qui en même temps est peut-être une bonne nouvelle, mais qui en même temps me fait soupirer. Enfin, avant qu'on fasse la news, sans en avoir parlé, vas-y.
c'est un peu la news douce amère de la semaine, j'ai envie de dire. Dans une vidéo qui est très transparente, un des cadres de Nintendo qui s'appelle Shinya Takahashi nous a fait un update sur la situation du développement de Metroid Prime 4, qui avait été annoncé il y a un an et demi. Le développement s'est pas spécialement super bien passé, et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont reprendre de zéro. Donc là, clairement, douche froide, hein. Par contre, c'est là où je vous disais que c'était doux amer, le producteur du jeu, qui s'appelle Kensuke Tanabe, va être chargé de travailler en collaboration avec Retro Studio, donc qui sont les développeurs originaux des Metroid Prime, sur ce jeu. Donc ça, c'est forcément une bonne nouvelle pour les gens qui aiment bien Metroid Prime. En revanche, évidemment, le fait de repartir de zéro, bah ça veut dire que voilà, la sortie du jeu va être dans beaucoup plus longtemps que ce qu'on pouvait attendre.
Alors, je vais poser une question. Est-ce qu'on s'attendait vraiment à ce que le jeu sorte bientôt? Parce que je rappelle quand même l'annonce de Metroid Prime 4. Hein. C'était un putain de logo, quoi.
Ouais, mais il était bien fait.
C'était un beau logo, mais c'était un putain de logo quand même. Et je me rappelle à l'époque, on regardait la conférence avec Mamie Lamy, qui, je le rappelle, travaille chez Ubisoft, hein, voilà. Et il avait un peu les balls, quoi, quand même, parce qu'il disait, mais écoutez, nous, Ubisoft, on ferait ça, on serait démonté la gueule, il avait pas tort.
C'est vrai.
J'ai envie de dire juste une chose. Moi, je suis pas tellement déçu qu'il soit reporté. Je suis surtout agacé du fait qu'on ait encore un jeu qui a été annoncé beaucoup trop tôt, quoi. Quand est-ce que les éditeurs vont comprendre que ça ne sert à rien de montrer les jeux autant à l'avance? Il faut avoir des choses à montrer quand tu parles d'un jeu, quoi. Et ce d'autant plus que on pourrait me dire, oui, mais tu comprends, il y avait eu le scandale Federation Force, qui est un des trailers les plus downvotes sur Internet. Oui, sauf que ils avaient quand même, entre-temps, sorti un épisode DS pour faire patienter les gens, etc. Voilà, il y avait quand même un peu de matière sur Metroid. On pouvait encore les faire patienter un peu. Là, franchement, ça a été annoncé trop tôt, quoi, tout simplement. ATH.
Ouais, exactement, le jeu a été annoncé beaucoup trop tôt, donc vu qu'on n'avait pas vu d'image de gameplay, ni de vidéo de jeu, ou quelque chose qui présentait en quoi allait être le concept de ce Metroid Prime 4, personnellement, je suis pas déçu, parce que je me dis, bah, tant qu'à faire, refaites les choses bien, quoi. Par contre, je suis content quand même que ce soit Retro Studio qui bosse dessus, parce qu'on se demandait qu'est-ce qu'ils allaient faire, et vu que c'est eux qui ont fait quand même la première trilogie, on peut s'attendre à ce qu'ils, voilà, ils mettent un peu d'amour dans le truc. Moi, Metroid, j'ai connu le premier Metroid, c'était sur Super Nintendo. C'est une licence que je trouve qui a énormément apporté aux jeux vidéo. Donc, Metroid Prime 4, j'espère vraiment, parce que s'il y a un jeu qui me fera acheter une Switch, je pense que ce sera celui-là. Par contre, vous avez pas intérêt à vous louper, les gars. Prenez tout votre temps. Même s'il faut que vous le sortiez sur la console d'après, c'est pas grave. Sortez-le sur la console d'après, mais faites-moi un Metroid carré. C'est juste ça. Et comme tu l'as dit, Way, le jeu a été annoncé beaucoup trop tôt. Et, je trouve que c'est un petit peu dommage. Parce que déjà il y aura plus l'effet de surprise quand on va voir un Metroid Prime 4, on va savoir que ça existe depuis pas mal de temps. Après, je me demande vraiment ce que, alors là c'est quelque chose qu'on saura pas du tout, peut-être que d'ici 10 ans on pourra savoir après quand il y a un post-mortem, mais je voulais savoir pourquoi ça a clashé avec l'ancienne équipe, quoi.
Bah après on sait que Nintendo ils sont
C'est des nazis du
très exigeants. Je veux dire, c'est pas un hasard que Rare ils aient rien de fait potable après de cette barrette chez Nintendo, hein, voilà. Ouais. Je suis méchant. Ils ont fait Vigil et la Pinata qui était quand même très sympathique.
Et ils ont fait aussi Cameo aussi.
Bon, ah oui, et juste avant de donner la parole à Mordred, je rappelle que je n'aime pas Metroid Prime.
Attends. Je quitte le podcast.
Non, mais c'est son droit. C'est son droit. Tu as très mauvais goût.
Mais je pousse rouge.
En fait, je pense qu'il y a deux facteurs qui ont mené à son annonce trop tôt. C'est que, un, c'était dans la phase où il fallait faire monter un petit peu la pression autour de la Switch. Et deux, c'était aussi une phase où, justement, ils étaient en train de se remettre du bid Federation Force. Et que c'était aussi le moment où ils ont annoncé Metroid Samus Returns sur 3DS. Et que du coup, ils avaient peur de se reprendre exactement le même bash qu'à l'époque de Federation Force. Parce que ce qu'ils étaient en train d'annoncer pour Metroid, c'était pas Metroid Prime 4, c'était un autre Metroid.
Oui, mais c'était un vrai Metroid quand même. Enfin, ce que les gens reprochaient à Federation Force, c'est que c'était un putain de jeu multijoueur. Enfin, tout le monde s'en bat les couilles dans Metroid, quoi, d'avoir un jeu multijoueur. Ouais. Là, c'était un Metroid classique 2D, ce qui n'est pas pour déplaire aux fans. Enfin, moi, pourquoi je n'aime pas Metroid Prime, ce dit au passage, c'est parce que je suis un grand fan des Metroid 2D, voilà. Mmh. Je n'aime pas la vue FPS dans les Metroid Prime, et surtout l'alternance entre les deux vues, à chaque fois, ça me hérisse le poil. Enfin bref, voilà, c'est 36 cases my life. mais je pense que le simple fait d'annoncer le remake sur 3DS, ça aurait calmé les gens.
Ouais.
En plus, c'est pas comme si c'était un remake facile. Ils ont retravaillé le jeu pour faire quelque chose de moderne, etc. Ils ont fait un épisode à part entière, finalement, tu vois. Malgré le fait que ce soit un remake, donc c'était quand même quelque chose d'intéressant.
Ouais, mais c'était un remake d'un jeu pas connu. C'était celui qui était sorti sur Game Boy. Il était ultra difficile à l'époque. Et puis même, le Metroid de Game Boy, c'est pas le plus connu de la série, le plus apprécié, on va dire.
Voilà. À mon avis, pourquoi ils l'ont annoncé, c'est surtout qu'ils avaient rien à montrer durant la conférence de la Switch, quoi. Je rappelle que c'est aussi là qu'ils ont annoncé Pokémon. Ah oui, en fait, on bat sur un jeu Pokémon.
C'est vrai.
Pokémon RPG. On parle pas de Let's Go, hein. On parle du Pokémon RPG.
Oui, oui.
Dont on ne sait rien encore aujourd'hui.
Canonique, dont on ne sait toujours rien. Dont on est en train de prier qu'il aura pas le moteur de Pokémon Go.
Vos prières ne seront pas exaucées.
Vous noterez que j'ai dit Pokémon Go et pas Pokémon Let's Go, hein. Ça en dit long.
Je voulais juste finir sur le fait qu'il y a que Nintendo et Rockstar qui peuvent annoncer un logo et enflammer tout Internet. Il y a que eux qui ont une aura aussi forte qui peuvent faire ça. Et peut-être aussi, on va dire, Blizzard, à un certain moment, même si maintenant c'est plus trop ça, parce que voilà, voilà, il y a pas beaucoup de gens qui peuvent se permettre de balancer un logo pour générer une hype monumentale. Là, c'est Metroid, mais s'ils font ça avec le prochain Zelda, ils mettent juste Zelda, je sais pas quoi, The Sky is the Limit, mais les gens vont devenir fous, tu vois. Mais non, mais c'est vrai. C'est juste un logo avec Zelda et je sais pas quoi, et puis les gens vont devenir fous. Après, ils vont dire c'est un jeu mobile, là, les gens vont commencer à gueuler, mais...
Mais par contre, c'est là où je vous répondrai, monsieur Mamilami, hein. C'est que pourquoi Nintendo a cette aura et pourquoi Rockstar a cette aura, c'est parce que contrairement à Ubisoft, ils ne sortent pas le même jeu tous les deux ans.
Oh lolo, ça clash, oh lolo. Mamilami va répondre.
Ça peut discuter, hein.
La suite au prochain épisode.
On va dire le même jeu 1.5 tous les deux ans. Allez, je suis sympa.
Ouais, ça peut encore se discuter, hein, sur les Mario Bros et tout, mais bref. Non, parce que bon, on rappelle quand même que Nintendo, c'est quand même une usine à portage et à remake, donc voilà, faut quand même mettre un peu les choses dans leur contexte.
Et puis Rockstar, ils font des jeux avec des gameplays de merde, et puis voilà, on se met à dos toute l'industrie, qu'est-ce qu'il y a?
Il y a un truc quand même sur lequel je voulais revenir, et moi j'apprécie la démarche en fait de Nintendo sur cette vidéo d'annonce de bah voilà on en est à ce point là et on préfère vous le dire qu'on repart à zéro. Il y a très peu de studios qui assument de dire écoutez les mecs bah voilà on a merdé, déjà on l'a annoncé trop tôt,
c'est vrai,
et en plus on repart à zéro. Bon, heureusement il y a le côté qualitatif de Nintendo qui joue dans la réception de ce message là. Et en plus, le côté, on vous annonce que c'est Retro Studio qui va co-développer avec nous. Donc ça, forcément, ça joue sur la réception du message. Mais je trouve quand même que ce genre de démarche manque un petit peu à l'industrie. Parce que c'est intéressant de voir ce qui s'est passé notamment avec Blizzard sur la BlizzCon. Ils annoncent le Diablo smartphone. Et que derrière, en fait, c'est Kotaku qui est obligé de leaker que Diablo 4 est effectivement en développement, mais qu'ils sont en galère absolue et que c'est pour ça qu'ils en parlent pas. Là, c'est à peu près la même situation, hein, si tu regardes. Ils sont en galère de développement tous les deux, sauf que Nintendo fait le choix de la transparence. Mmh. Et ça, je trouve que c'est intéressant quand même à noter comme... Moi, j'apprécie en tout cas cette démarche.
Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous, vous êtes content de ce report et qu'il reparte à zéro? Ou bien vous préférez qu'ils continuent avec un jeu
mauvais?
Non, mais
quoi. Attends, soyons clairs. Évidemment qu'il vaut mieux qu'ils le reportent. On l'a suffisamment répété ici que ça sert à rien de sortir jeu en rusher. Non, mais voilà. Mais encore une fois, moi, ce que je critique, c'est pas le report en lui-même, c'est l'annonce. Mmh. Attention, qu'on fasse bien le distinguo. Je ne critique pas le report. Pour moi, ils ont raison de le faire.
Bien sûr.
Ce qui me gonfle, c'est qu'on annonce des jeux de 5 ans avant. J'ai suffisamment également répété ici depuis des années que ça ne sert à rien de faire ça.
Non, mais pourquoi je me permets de vous poser cette question là, c'est parce que en voyant cette news, j'ai regardé quelques commentaires et les gens sur internet sont quand même déçus. Pourquoi vous êtes déçus? Déjà, le jeu n'existait pas, vous avez rien.
Non, mais
tout.
C'est parce que c'est la culture de la hype, encore une fois. Ça, c'est aussi, ça, c'est un truc que les gens, ça m'énerve. Les gens qui s'enjaillent sur un logo, quoi. Putain, à un moment donné, tu sais rien du jeu, putain.
C'est ça,
mais pourquoi
exactement.
Alors après, je sais, c'est vrai que, par contre, on peut reconnaître aux fans de Metroid qu'ils ont faim.
Oui.
Quand même, Metroid, c'est pas exactement la licence la mieux traitée de Nintendo ces dernières
années. Ouais, mais c'est quand même une licence qui a eu pas mal de fois sa chance, hein. Je suis désolé. Mais rien que les épisodes 2D, encore aujourd'hui, sont encore très valables. Après, Moi, je suis pas fan qu'une licence dure éternellement. C'est comme moi, par exemple, je vais faire une analogie avec les mangas et les comics. Moi, je suis plus un lecteur de manga que de comics parce que les comics, l'histoire de Batman, l'histoire de Spider-Man, à chaque fois, on va changer peut-être l'origine story, un ou deux détails dans l'histoire, mais j'ai l'impression que ça va jamais se terminer. Et moi, j'aime bien avoir une histoire qui, au bout d'un moment, je me dis, bon, ok, c'est fini, on passe à autre chose et entendre autre chose.
Faire en lire 80 tomes. Ouais.
C'est ça. Et alors que, tu vois, Metroid, franchement. En vue FPS, on est au 4e épisode. Il y a eu d'autres tentatives en épisode 2D qui étaient sorties sur Wii, plus d'autres jeux qui ont été des remakes. Enfin, il y a eu quand même pas mal d'épisodes. Donc, les mecs qui disent que j'ai faim de Metroid, franchement, il y a pas mal de jeux. Surtout aujourd'hui, t'as des jeux comme Hollow Knight qui reprennent un peu le concept de...
Oui, alors, par contre, je te ferai remarquer que des jeux comme Metroid Prime, il n'y en a pas 36.
Non.
Parce que...
Metroid Prime, non.
Il y a une différence fondamentale pour moi entre Metroid Prime et Metroid. Hein.
Exactement. Oui.
Même s'il y a des idées qui sont communes, c'est pas la même chose de jouer à un FPS que de jouer à un jeu en 2D vu de côté avec de la plateforme, etc. C'est pas le même concept,
bien
si
sûr.
Tu veux, quoi. Voilà. Après, ok, j'entends bien le discours à THQ, si tu veux, mais là on parle quand même de Nintendo qui, comme le soulignait Mandrain, recycle toutes ses licences.
Mmh,
et,
oui.
Non,
mais ça...
et on va dire que, a priori, si t'es fan de Nintendo, le recyclage c'est pas vraiment quelque chose qui te dérange, quoi. Tu vois. Donc, encore une fois, si t'es fan de Metroid, pour le coup, ça fait quand même un certain nombre d'années que il y a pas eu un épisode canonique qui envoyait du steak, quoi. Voilà. Donc je peux comprendre côté fin, mais une fois encore, arrêtez de vous enjailler sur des putains de teasers, et ce d'autant plus que je veux dire, Metroid a prouvé qu'ils étaient capables de faire de la merde aussi, hein, Federation of Force, il y a aussi le Metroid sur Wii dont j'ai totalement oublié le titre tellement il m'a
marqué, c'est Other
dire, voilà, Other M,
où
voilà,
Samus était dépressif et racontait sa vie.
Voilà, c'est ça, 3615 My Life, Morlan.
Ouais, une dernière chose que je voulais ajouter avant qu'on passe à la suite. Retro Studio travaille sur quoi, très exactement?
Je crois qu'il bossait sur un jeu de course, il me semble.
D'accord.
Mais c'était que des rumeurs, si je me souviens bien.
Et c'est ça qui est ouf, en fait, c'est que ça fait depuis 2014 qu'ils n'ont pas sorti de jeu. Mmh. Le dernier, c'était Donkey Kong Country Tropical Freeze, qui a été porté depuis sur Switch. Mais est-ce que ce projet-là, du coup, il est mis en péril par cette collaboration avec Nintendo sur Metroid Prime 4.
C'est une bonne question.
C'est aussi ça la question. Et ça, il n'en parle pas dans son message.
Alors là, on peut faire que Madame Irma, parce qu'on n'a jamais eu de confirmation sur quoi bosser Retro Studio. Mais moi, je pense que mis à part s'ils ont vraiment une petite baie qui puisse travailler sur l'autre projet, je pense vraiment qu'ils vont squeezer l'équipe sur Metroid, hein, parce que...
Parce que, précisons, les termes, c'est « on va travailler en collaboration avec Retro Studio ». Pour l'instant, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que l'intégralité du studio va travailler du coup sur Metroid Prime 4 ? C'est possible. Est-ce que ça veut dire qu'une petite partie du studio va travailler sur Metroid Prime 4 ? C'est possible aussi. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'a pas cet élément-là de qu'est-ce qu'ils font de cet autre jeu ? Est-ce que l'équipe va être scindée en deux ? Rappelons quand même que c'est un petit studio, hein. Il y a une centaine de personnes dedans, hein, pas plus.
Et ouais, c'est pour ça. Et c'est des Anglais, il me semble, c'est ça ?
Ils sont américains, Retro Studio, non ?
Ah oui, américains, ouais.
Ils sont à Austin.
Ouais. Tout à fait. Bon, messieurs, on va enchaîner dans le segment Tranlolo de la semaine. On va enchaîner sur Assassin's Creed Odyssey. C'est juste le suivi de la news que j'avais fait la semaine dernière. Hein. Je reviens pas dessus. Hein. Ubisoft qui promet que nos choix auront une importance dans Assassin's Creed Odyssey. Et à la première occasion, ils te disent « Ah bah non, finalement, si tu jouais un personnage qui avait des romances homosexuelles ou qui était tout simplement solitaire, bah t'es forcé d'avoir un marmot. » Et bah finalement, devant la bronca qu'il y a eu sur Internet, ils se sont dit « Ah bah, attendez, on a retrouvé le script !» Et ils vont donc sortir une fin alternative, voilà, où vous pourrez visiblement avoir le choix de ne pas avoir une descendance. Bah voilà, c'était pas si difficile hein, de prévoir une fin alternative finalement, Ubisoft. Mais voilà, voilà. Et enfin, pour terminer, alors là, je pense que mes collègues ont une réaction plus vive, n'est-ce pas ? C'est par rapport à Monsieur Nomura. Je rappelle qu'il y a un mois de cela, il y a une version de Kingdom Hearts 3 qui a leaké. Visiblement, ils avaient envoyé des copies un peu partout. Il y a quelqu'un qui s'est dit, bah tiens, moi j'en ai quelques-unes et si je les revendais ? Bon, il a eu quelques démêlés avec la justice, paraît-il, depuis.
C'est ça.
Le problème, c'est que en attendant, il y a des gens qui ont bien récupéré ces versions et qui les ont diffusées, enfin en streaming ou ce genre de choses. Et du coup, bah là, il y a des gens qui se sont fait spoiler. Bon, en même temps, si je puis me permettre, si tu vas sur un stream de Kingdom Hearts 3, À moins que tu sois pas totalement débile, tu doutes que tu vas être spoilé, hein. Mais bon, après, moi je dis ça, je dis rien. Mais donc, devant ce scandale international, qu'a déclaré Monsieur Nomura ? Eh ben, si c'est comme ça, hein, bah je pense que la prochaine fois, on sortira pas le jeu en international, parce que c'est le fait de sortir en jeu international qui a fait qu'on a eu ce leak. Et donc, on n'est pas sûr qu'on fera ça la prochaine fois, et du coup, on le sortira d'abord au Japon, hein, j'imagine, hein, parce que ça m'étonnerait qu'une boîte japonaise sorte le jeu d'abord aux États-Unis. Quoique, il me semble que c'est ce qui s'est passé avec Final Fantasy XV.
Oh,
j'ai un doute.
Voilà. Mais enfin, bref.
Quoi qu'il en soit, tu sors le jeu un mois en avance, on va dire, sur un territoire en particulier. Je sais pas, les gens, ils vont streamer, non? Donc du coup, les gens sont spoilés pareil.
Non, mais en plus de ça, ce qui est assez étonnant dans la déclaration de Nomura en entier, il va reconsidérer la question pour les versions physiques, en tout cas. Pas pour les versions dématérialisées. Donc déjà, c'est assez bizarre, parce que si le jeu sort en dématérialisé dans tout le monde, mais que tu retardes les versions physiques à une semaine après ou deux semaines après pour éviter que les gens spoilent, quoi qu'il arrive, ça va quand même spoiler les gens si tu le sors dans un territoire en avance. Après, c'est juste qu'il y a un mec qui s'est amusé à voler une version du jeu sur Xbox One, qui les a revendus sur eBay, et du coup, c'est une défaillance de Square Enix, c'est eux qui ont envoyé le jeu trop tôt, c'est à eux de surveiller ce qu'ils font quand même.
Tout simplement.
Après, il y a une erreur humaine qui rentre en compte, mais je veux dire, pour tous les jeux qui sortent dans l'année, par exemple Red Dead Redemption, des jeux qui sont attendus quand même par des millions de joueurs, la plupart du temps ça se passe bien, alors que c'est des sorties mondiales aussi. Là, c'est Square Enix qui a fait une boulette, et du coup, au lieu d'assumer les conséquences et de dire, ok, la prochaine fois on va essayer d'être plus vigilant dans le traitement de l'information, là c'est carrément, il fait en fait sa diva, quoi. Et surtout que c'est eux, t'as pas besoin d'aller sur Twitch pour spoiler le jeu, ils ont fait 50 000 bandes annonces du jeu, ils ont spoilé le jeu eux-mêmes, donc au bout d'un moment, voilà quoi, tu vas pas reprocher aux gens de faire ce que tu fais, et en plus ils t'aident pour la communication de ton produit, donc dis-leur merci, tu vois.
Bon, allez, on va terminer messieurs avec une news sur DeepMind. Il y a eu un événement cette semaine, c'est un match entre des pros de StarCraft 2 et une intelligence artificielle. Je rappelle que DeepMind, c'est l'intelligence artificielle qui avait joué aux jeux de Go et aux échecs, et qui avait battu d'ailleurs des champions sur ces deux disciplines. Là, on passe à l'étape supérieure, c'est-à-dire que là, on passe à une IA qui doit gérer la carte, etc., l'inconnu, ce genre de choses. Et elle a battu les joueurs pro 10 à 1. Alors attention, une petite précision tout d'abord. Cette intelligence artificielle avait quand même un petit avantage sur les humains. C'est-à-dire que effectivement, il y avait quand même le brouillard de guerre, mais par contre, elle n'était pas limitée par la taille de l'écran. Elle n'avait pas, vous savez, à naviguer sur la carte pour aller voir ce qui se passait dans telle ou telle zone, etc. Contrairement à un joueur qui doit décider à chaque instant, est-ce qu'il va voir ce qui se passe là, ou est-ce qu'il continue à se concentrer sur tel coin de la map, etc. Ça, déjà, ça lui donne quand même un petit avantage. Et justement, le seul match qui a été perdu par l'intelligence artificielle, c'est celui où elle a dû gérer cet aspect du jeu, celui de la carte. Donc voilà, c'était juste la précision qui me paraît utile. Maintenant, je voulais dire aussi qu'il y a plusieurs intelligences artificielles qui ont été montrées durant ce match, que c'est des intelligences qui ont été entraînées en mode accéléré, ça fait l'équivalent de 400 ans d'entraînement.
Sur 15 jours.
Voilà,
ouais.
Sur 15 jours. Ils ont inventé la salle du temps.
Spoiler, en règle générale, un être humain après 400 ans n'est plus là.
Voilà, c'est ça. Il y a encore des progrès à faire, mais je sais pas pour vous. Moi, j'étais très excité par ce que j'ai vu, parce que s'il y a bien un genre où ce type de technologie peut avoir un intérêt, c'est le jeu stratégie en temps réel. Même si c'est un genre qui pue trop à la mode, je sais. Mais vous savez, les modes, ça va, ça vient, donc peut-être qu'un jour ça reviendra, n'est-ce pas? Et pour le coup, j'y vois un vrai intérêt dans ce type de jeu-là. Bon, évidemment, ça demande des réglages, hein, tout le monde n'est pas un joueur pro. Mais justement, ils ont fait plusieurs types d'IA avec différents niveaux d'entraînement, etc. Donc c'est possible de faire des IA qui s'adaptent en fonction du niveau du joueur. Et moi, tout ça, ça m'excite mille fois plus que toutes les news qu'on voit en ce moment sur le ray tracing qui serait intégré par défaut à la prochaine génération de consoles. Enfin, toutes ces news sur la technique, etc. Alors, Je sais que par le passé, j'ai dit que oui, la technique, c'est quand même important. Oui, c'est important quand elle est mise au service du jeu. Et moi, ce qui me gênait pas mal à la base avec la technique, jusqu'à maintenant, si vous voulez, elle limitait l'ambition artistique des jeux. Des fois, tu voyais des artworks et tu te disais, putain, c'est con que les jeux, ils puissent pas rendre ça en vrai. Mais aujourd'hui, on n'a plus ces limites-là. Donc finalement, pour moi, ça compte beaucoup moins que on fasse des jeux encore plus beaux, encore plus machin, et ce d'autant plus que le fait de faire des jeux plus beaux, ben finalement ça commence à desservir les jeux parce que ça demande des budgets astronomiques qui poussent à prendre le moins de risques possible. Et ça me gêne d'autant plus que derrière, ben cette focale qui est mise sur la technique, elle fait que on se concentre moins sur des technologies comme celle-là par exemple ou sur d'autres expérimentations dans le jeu vidéo quoi tout simplement. Messieurs,
alors, moi, je pense vraiment qu'on a atteint un point satisfaisant avec la génération précédente en termes de graphisme. C'est-à-dire qu'on aurait pu très bien s'arrêter à un niveau de jeu PS3, Xbox 360, en affinant les textures au fil du temps et en mettant un peu plus d'anti-aliasing, mais on aurait pu s'arrêter à ce moment-là et dire, ok, là, on a atteint un gap technique visuel qui est vraiment pas mal. Bon, maintenant, ce qu'on va proposer à faire, c'est que nos jeux sont de plus en plus beaux, plus réalistes, mais il y a toujours cette vallée dérangeante quand on joue à des jeux avec des IA qui sont complètement débiles. Tu te dis, ah ok, là je suis vraiment devant un jeu vidéo parce que un être humain n'aurait jamais réagi comme ça. Et ce qui, je pense, devrait être un accent vraiment plus important et plus mis en avant pour les prochaines générations de consoles. Un exemple, regardez Red Dead Redemption 2. C'est un jeu qui est magnifique aujourd'hui. On pourrait s'arrêter là. On pourrait avoir cette base pour la prochaine génération et améliorer un petit peu l'intelligence artificielle, le moteur physique, le genre de petits détails qui ne sont pas évidents à marketer, mais quand tu y joues, font toute la différence. Imaginez-vous, par exemple, des batailles. En général, on vous dit, oui, vous allez affronter des armées de 100 ennemis. Mais l'intelligence artificielle, est soit elle attend son tour pour que tu l'attaques, ou soit c'est géré vraiment de manière, on va dire, totalement random. Et ce qui serait bien, ce soit vraiment qu'aujourd'hui, on puisse ne pas se contenter uniquement de booster la technique, parce que la technique, c'est ce qui fait vendre. Mais au bout d'un moment, voilà, je pense que c'est plus que largement suffisant. Enfin, on est vraiment une génération gâtée aujourd'hui, quoi, par rapport à ça. Et je pense que vraiment, comme tu l'as dit, l'intelligence artificielle, c'est intéressant pour les jeux de stratégie, mais il n'y a pas que les jeux de stratégie. Les jeux d'infiltration, c'est vraiment un peu le parent pauvre quand tu joues à un jeu qui est super intéressant.
Ouais, par contre, sur les jeux d'infiltration, pour moi, c'est un genre où je suis pas persuadé qu'une intelligence artificielle aussi poussée ait un intérêt. Pourquoi ? Parce que, alors certes, pour la crédibilité, je suis d'accord, mais un jeu d'infiltration, il faut que l'intelligence artificielle soit prévisible. Si elle est imprévisible, ça tue le gameplay du jeu.
Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut qu'elle soit prévisible, mais il faut pas qu'elle soit idiote. Par exemple, il y a Dishonored 2. Je saute à l'étage. Le mec qui est au même étage que moi ne m'entend pas. Par contre, le mec qui est tout en bas de l'escalier, parce qu'il y avait qu'une seule IA qui pouvait me détecter, le mec, je suis au troisième étage, monte tous les escaliers pour venir voir si le bruit qui a été fait, alors qu'il y avait un mec qui était juste en face. Ça la fout un petit peu mal.
D'ailleurs, je tiens à faire un distinguo entre une intelligence artificielle comme celle de DeepMind et ce qu'on appelle intelligence artificielle dans un jeu d'infiltration qui ne sont finalement que des scripts qui s'enchaînent, quoi, en fait. C'est vraiment deux choses très, 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 très différentes, quoi. Là, DeepMind, enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, Maureen, toi qui a été, fut une époque, un gros amateur de StarCraft 2, n'est-ce pas? Enfin, c'est impressionnant, ce qu'on voit.
Ouais, c'est vraiment bluffant. En fait, ce qui se passe, c'est que plus il laisse du temps à DeepMind pour s'entraîner, plus le réseau, en fait, d'intelligence artificielle s'améliore. Ils expliquaient que pour le premier match contre un pro player, l'intelligence artificielle avait eu 3 jours d'observation et d'imitation. C'est-à-dire que elle emmagasinait comment on joue à partir de replays de vraies personnes qui jouaient. Et ensuite, il y a eu une semaine de ce qu'ils ont appelé la Alpha Star League. Alpha Star, c'est le pseudo de l'intelligence artificielle qu'ils ont donné pour jouer. Et en fait, c'était l'intelligence artificielle qui jouait contre elle-même. Ils appellent ça des agents. Et tu as différents agents, en fait, qui vont jouer les uns contre les autres. Et au bout d'un moment, ils vont commencer à créer des stratégies d'eux-mêmes. Et ce qui s'est passé, c'est que les joueurs professionnels, eux, ont joué contre les 5 meilleurs de cette ligue d'intelligence artificielle, et chacune de ces intelligences artificielles avait une stratégie différente.
On précise que pour que ces intelligences artificielles et des stratégies différentes. Ils avaient bloqué leur progression à un instant T, mmh. et ils avaient orienté aussi leur progression vers différents styles de jeu pour s'assurer qu'on n'ait pas des IA identiques.
Ouais. Et ce qui est impressionnant, c'est que, eh ben, tu vois que l'intelligence artificielle joue pas exactement comme un pro player jouerait. C'est-à-dire que ça se voit, il y a des erreurs qui seraient grossières pour un joueur professionnel, mais que l'exécution est tellement parfaite sur un certain nombre d'autres choses, que ça les met devant quoi qu'il arrive, en fait. Et ce qui est impressionnant, c'est que l'intelligence artificielle ne clique pas plus vite, ou ne voit pas plus vite qu'un joueur professionnel.
Ouais, parce qu'ils ont mis des limites artificielles à l'IA pour qu'elle ne puisse pas tricher, quoi, entre guillemets.
Ouais. Ce que j'ai trouvé bluffant, c'est que le premier pro player, c'était pas un joueur qui jouait Protoss, mais en l'occurrence, le match devait être un Protoss contre Protoss, puisque l'intelligence artificielle avait appris à jouer ce match-up-là et rien d'autre. Bon, évidemment, il s'est fait avoir. Après, TLO, ce joueur professionnel-là, c'est pas une buse. Il a eu une grande époque au début de StarCraft 2, mais ça reste un très bon joueur. Le deuxième joueur, c'est un joueur qui s'appelle Mana et qui est vraiment excellent. En 2018, il a eu une très bonne année 2018. Il y a vraiment le potentiel derrière cette intelligence artificielle de battre quelqu'un d'humain qui a un niveau excellent. Alors après, effectivement, on pourrait la faire affronter un Coréen qui serait le numéro 1 Protoss sur Terre, mais ça montre quand même que l'expérience qui a été faite, l'intelligence artificielle est absolument pas ridicule, quoi. Et rien que ça, c'est juste bluffant. Moi, j'ai vu des moves, j'ai fait, mais c'est des moves de pro player, quoi.
Donc, vivement qu'on ait ce genre de techno. Alors, évidemment, le truc, c'est que là, tu vois, ça, c'est une démo. Je me dis toujours, ok, c'est une démo, c'est très intéressant, etc. Mmh. Mais est-ce que un jour, ce sera implémenté dans les jeux pour justement satisfaire par exemple des joueurs qui jouent en solo, ce genre de choses, ou même, tu sais, dans les jeux, par exemple, où imagine un FPS, tu vois, avec une population de joueurs assez basse, à la place de mettre des bots traditionnels qui sont cons comme leurs pieds, on met des IA qui sont crédibles. Ça rajoute de l'intérêt au jeu, quoi. Enfin, je vois tout un tas de potentialités là-dedans, mais des potentialités qui sont extrêmement difficiles à implémenter sans frustrer le joueur. Parce que il faut que l'IA soit à un niveau accessible pour les joueurs, et ça, à mon avis, c'est le plus dur à mettre en place, tu vois. Et moi, ce qui me désole, c'est que justement, au lieu d'expérimenter ce type de technologie, on s'attarde sur des trucs dont finalement, sérieux, le ray tracing. Alors, c'était très intéressant pour les infographistes qui vont pouvoir créer des scènes à la volée comme ça, sans se casser le cul à trouver des astuces en termes de lumière pour essayer de faire une lumière réaliste. Mais pour le reste, ça va quand même bouffer énormément de puissance de calcul pour pas grand chose, et ça, ma foi, c'est très dommage. ATH.
Oui, alors pour le jeu solo, il y a un jeu qui est assez connu quand même, hein, parce qu'il est sorti sur toutes les plateformes disponibles, qui avait fait un truc comme ça, mais par rapport à la difficulté. Ce jeu, c'est Resident Evil 4. C'est-à-dire que la difficulté du jeu s'adapte en fonction de la note que vous avez eue sur le chapitre. Si vous avez joué très bien sur le chapitre d'avant, bah, le jeu va augmenter en difficulté. Et là où je vois en fait l'utilisation de cette intelligence artificielle, ça serait que bah justement le jeu s'adapte, mais de manière plus précise, à la façon de jouer du joueur. En fait, je veux que l'IA se comporte comme un maître de jeu. C'est-à-dire, elle dit, bon, là, toi, je vais stopper ta progression tout de suite, et du coup, même en termes de speedrun, ça pourrait donner des trucs juste incroyables, quoi.
Et même, moi, là où ça m'intéresse encore plus, c'est des histoires émergentes.
Ah ouais, mais là, je pense que ça serait encore beaucoup plus compliqué que...
Ah ouais, non, mais je suis d'accord, mais la limite, c'est le ciel, tu vois, enfin...
ah, mon Zelda Skyos de limite...
Quand je vois un Shadow of Mordor ou un Shadow of War, tu vois, moi, c'est le genre de fantasme que j'ai, quoi. Qu'on essaye d'exploiter l'intelligence artificielle pour créer des histoires, qu'on utilise des modèles d'histoires qu'on fait émerger en fonction des actions du joueur, etc. Enfin, ça, franchement, ce serait, pour moi, c'est le rêve absolu, tu vois. Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est que certes, là, je fantasme complètement, on est d'accord, mais ce genre de fantasme, on n'y arrivera jamais si on continue de se concentrer sur des trucs superficiels.
Mais je pense que ça serait très difficile à mettre en place dans un triple A plus que dans un jeu indépendant, parce qu'en fait, en général, dans les triple A maintenant, la plupart des PNJ sont doublés, Et du coup, comment tu ferais pour doubler une histoire? Ou bien ça serait quoi? Ça serait une quête qui va apparaître sur un tableau? Alors que je pense un jeu qui n'aurait pas de dialogue.
À une époque où des intelligences artificielles arrivent à générer des visages crédibles à voler, peut-être qu'un jour elles arriveront à générer des voix crédibles.
Ouais, mais du coup, est-ce que ça va copier une voix random ou ça va copier la voix d'un acteur? Et du coup, tu vois, ça, enfin, moi je pense que ce genre de choses là, ça poserait encore plus de problèmes en fait aux développeurs que de solutions.
Genre, tu sais, tu mets des exclusions pour pas que ça ressemble trop à certaines voix d'acteurs. On sait jamais, des fois qu'ils nous fassent un procès. Quand tu vois qu'il y a des mecs qui font des procès à Fortnite parce qu'ils utilisent des emotes, franchement, j'ai envie de baffer des gens des fois.
Les célèbres danses, en fait, qu'il y a dans Fortnite, il y a eu des procès parce que le mec a dit « Ouais, mais c'est moi qui l'ai inventé cette danse-là », alors que, en fait, quand tu regardes, c'est pas lui vraiment le premier. Il y a l'acteur qui... je sais plus son nom, mais qui jouait l'ami Black de Will Smith dans Le Prince de Bel-Air, qui fait une danse comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, lui, il a dit « Eh, mais c'est moi qui l'ai inventé, du coup, je vais mes droits. » Un joueur de foot qui s'appelait David, un ancien joueur de foot de la Juventus, a dit « Eh, mais ce mec-là, il me ressemble un petit peu trop, du coup, procès à Tencent pour League of Legends. » Et le pire, c'est qu'il a eu raison, quoi. Donc, enfin, il a pas eu raison, mais il a eu de l'argent.
Il a gagné, quoi.
Voilà. Mais moi, enfin, je serais quelqu'un comme eux, tu vois, je serais content qu'on s'inspire de moi pour, voilà, je suis quand même dans un jeu.
Mais non, tu comprends, ces gens, ils gagnent pas assez d'argent, déjà.
C'est ça. Non, mais après, bon, ça serait Fortnite, j'aurais porté plainte parce que c'est un jeu de merde, mais.
Ouais, alors là, je suis pas d'accord.
Non, mais c'est un troll. On répond pas au troll.
Bon, messieurs, je vous propose qu'on s'arrête là. Le pauvre ATH est fatigué, il sort du sport.
Il faut aller faire
dodo.
Il
a la permission de minuit, donc voilà, faut qu'il aille se coucher maintenant. Allez, rendez-vous la semaine prochaine. Ah non, j'allais dire rendez-vous la semaine prochaine, mais non, justement. Pourquoi? Parce que, alors déjà, il se trouve que je suis crevé en ce moment, mais le boulot, c'est un truc de fou. Il se trouve que Morane n'est pas là pendant 2 semaines. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne questionne pas sur sa vie privée, n'est-ce pas?
Je serai pas en vacances, hein, je vous préviens, hein, c'est pas pour ça.
Oui, il va aller se faire exploiter, je suis sûr, en plus. Donc voilà, pas de podcast la semaine prochaine. Rendez-vous dans 2 semaines. Ciao à tous.
Salut tout le monde.
Ciao.